Rien n'est plus difficile que d'inventer des noms propres, des noms de lieux ou de personnages quand on commence à écrire un roman. Deleuze y voyait à juste titre l'élément de bascule, le pont-levis qui avait permis à Proust d'entrer de plein pied dans la recherche. Il y a dans le nom propre, quand il est correctement joué, un effet poétique inégalable. Le nom propre idéal est un apax, un terme isolé dans une langue morte et par définition intraduisible. Langue onomastique chère à Brichot, langue étymologique de ceux qui décomposent Marsante en mater semita pour expliquer le dreyfusisme de Saint-Loup, mais le nom propre appartient en général à la langue intime et difficilement traduisible de l'imagination. Proust en fait la démonstration éblouissante à la fin de Du côté de chez Swann. Les noms sont presque des lieux. On peut marcher sur le X de Bayeux, entendre le S muet à la fin de Guermantes, longer le W de Swann et sauter d'un B à l'autre de Balbec, de la Bretagne à la Phénicie. La prouesse même, après un siècle, reste éblouissante. Ni le Ptix de Mallarméen, ni les calligrammes d'Apollinaire n'arrivent à cet effet de trouble. Le nom propre est vraiment devenu chez Proust un marqueur de poésie, au même titre qu'avant lui la versification ou la rime. On trouvait bien sûr ici ou là des cipangos ou des posilipes, mais aucun train n'y menait vraiment. Il n'avait pas la neutre splendeur du nom d'une ville véritable sur une plaque émaillée. J'ai lu Proust un été dans la petite maison située en face de celle de ma grand-mère et qu'on appelait, du nom de son ancienne occupante, la maison de Madame Bourdoiseau. Bourdoiseau, c'était aussi le nom de jeune fille de mon autre grand-mère. Si j'avais pris un pseudonyme, les jurisprudences Céline et Welbeck m'auraient probablement conduit à adopter celui-ci. Mais ce qui m'avait spécialement importé en cet été 97, c'était de lire ce livre dans mon combret personnel, un village dont le nom avait toujours été comme un signe d'enchantement quand il apparaissait enfin en lettres noires à la fin du voyage. Le temps passé ici n'appartenait pas au monde et possédait même une fécondité particulière, celle à quelques mètres du panneau d'entrée de ville, de ces grains de blé renversés dans la rivière après qu'un camion avait franchi le parapet du pont et on les avait vus germer au bord de l'eau à la saison suivante. La magie du nom propre permettait ce genre de miracle. Le charme des noms propres, c'est de jouer avec des syllabes familières en dehors du champ de la signification. Le nom propre idéal et proustien, toponymique et original, a l'air encore plus français que les mots de la langue. Sa majuscule à l'oreille est presque inaudible. Cotard ou Vinteuil pourraient être des choses, le nom d'un type de relief ou celui d'un oiseau. Dans la combinatoire de la langue, les noms propres ne sont pas des anomalies, mais des endroits où on a trouvé à placer les syllabes oubliées, les phonèmes évidents, qu'aucun nom commun n'est encore venu ramasser. Il est miraculeux que dans l'économie de la langue, bulot désigne un coquillage et désolant que balu, aux syllabes aussi pleines, à la coquille si dure, ne soit pas une chose. Le nom propre répare cela. Le chef-d'œuvre de l'architecte Balu n'est pas l'église de la Trinité, mais la rue qui a fait de son nom un objet anodin du tissu de la ville. Les noms propres désignent enfin mon énigme métaphysique préférée. Ceux-ci existent-ils dans l'esprit de Dieu ou dans les lois de la physique, ou sont-ils transparents et réductibles à des descriptions définies, non pas la rue Balu, mais la portion d'espace située entre la rue Blanche et la rue de Clichy, elle-même réductible à des coordonnées géographiques. C'est la réponse bien connue de Russell et de tous les réductionnistes à l'énigme des noms propres. Avec un génie proustien, Kripke avait pourtant choisi d'en faire des désignateurs rigides, une façon de désigner la même chose dans tous les mondes possibles, indépendamment de leur description. La rue Balu pourrait être une sente sur Vénus et une autoroute sur Jupiter. La solution médiévale de Duns-Scot, l'ascétisme du latin aec, ceci, était encore plus radical. Les choses posséderait un nom propre caché seulement connu, peut-être du créateur lui-même. Nous serions alors dans un monde de noms propres, et ce serait le nom commun, l'anomalie, le lieu du trouble poétique.